C'est juste que je parle pas fort pour l'instant. Là. Hein? Ça, je dis, on est stressé? Vous comprenez pourquoi je dis ça, là? Le stress. De ça, je parle ce matin. Différents types de stress, hein? Des petits stresseurs comme ça, ou des plus gros stresseurs parfois, hein? Petits stresseurs du genre, je vais-tu avoir assez de batterie ou des choses comme ça? Il y a des plus gros stresseurs, du genre, j'ai plus d'emploi, comment je vais faire pour arriver? Je trouve pas d'appartement, des choses comme ça. Ça va pas bien dans la famille. Donc, il y a des gros stresseurs, il y a des petits stresseurs. Suzanne a parlé du stress ce matin, justement, hein? Vous avez entendu parler probablement. Tout ce qui tourne autour de la vente de terrain et tout ça, c'est un stresseur. Hein? Plusieurs sortes de stress, comme je dis. Ça, c'en est un. Stresseur sur le conseil et tout ça. Tout ce qui se passe. Mais comme je dis, il y a différents types de stress aussi. On vit des stress partout. On la vit au travail, sûrement. On la vit dans la famille, dans le ministère. C'est nous qui sommes dans le ministère. Dans nos ministères à l'Église, que ce soit à temps plein ou temps partiel, hein? Peu importe. On a la vie là. On a la vie dans nos familles. On a la vie partout où on va. Même, je pense que ceux qui sont isolés, ils vivent du stress sur Internet à cette heure. Donc, il y a du stress partout. Puis, il y a différents types de stress. Hein? Ça peut être le stress de performer. J'ai un match important qui s'en vient. Il faut que je sois bon. Hein? Il faut stresser. Ça nous stresse. Un examen qui s'en vient. Stress financier, on en a parlé. L'inconnu. Qu'est-ce qui va se passer? Hein? On ne sait pas ce qui va se passer. Je donne un exemple. Les jeunes, à un moment donné, on faisait une nuit ici, à l'église. Et puis là, eux autres, ils étaient à quoi? 6, je pense. Et là, il y avait une personne qui venait qui ne connaissait pas. Ça, ça les stressait. J'imagine que l'autre est encore plus stressé, mais bon. Juste le fait d'avoir quelque chose d'inconnu, hein? Ça peut être un stresseur. Donc, première chose qu'on va faire, on va définir c'est quoi le stress, selon la définition que j'ai trouvée sur Internet. Là, de nos jours, si vous avez remarqué, quand on fait une recherche dans Google, c'est l'intelligence artificielle qui répond. Très artificielle, mais bon. Alors, je ne peux pas vraiment de source de dire ça vient de tel dictionnaire ou quoi que ce soit, mais j'ai quand même pris ce qui était là. Alors, c'est quoi cette définition, selon notre intelligence qui est artificielle? Il dit, le stress, c'est la réaction naturelle. C'est moi qui ai souligné, je veux mettre l'emphase sur certains mots. Réaction naturelle et physiologique. Physiologique, notre corps, la physique de votre corps. Le physique et le psychologique. Les deux interagissent ensemble. Hein? Face à une situation qui demande de l'adaptation. Ça, c'est souvent le problème, l'adaptation. Il y a un changement, souvent c'est un changement, et là, il faut s'adapter à ce changement-là. En passant, j'ai su que vous... Je me suis fait rappeler que c'est le sujet que vous aviez parlé entre femmes, mais quand même, on va l'approcher d'une façon différente. Donc, je pense que ça va être bon quand même. Donc, une réaction naturelle et physiologique face à une situation qui demande l'adaptation. C'est un mécanisme de survie. Ah, c'est bon ça. Pas juste du négatif, hein? C'est un mécanisme de survie qui se déclenche lorsque vous percevez une menace ou une pression. Donc, c'est possible que ce soit positif du stress. Hein? Un mécanisme de survie. Donc, sans ça, il pourrait y avoir des situations qu'on ne survivrait pas, si on peut dire ça comme ça, à l'extrême. Ça me fait passer à des définitions que j'avais déjà entendues aussi, la crainte, la peur. La crainte fait que tu vas prendre la fuite devant danger ou que tu ne mettras pas ta main sur un rond de poil quand il est chaud. C'est bon. C'est positif. Hein? Dieu crée les émotions. Et des émotions sont bonnes. Donc ça, c'est des émotions qui peuvent avoir son bon côté aussi. Malheureusement, avec l'avenue du péché et tout ça, les émotions parfois deviennent mauvaises aussi. Donc il y a le côté négatif aussi à l'envers de la médaille, si on peut dire ça, associe. Hein? Donc, souvent, quand on parle du stress, nous autres, on pense plus au côté négatif. que ça cause, les problèmes que ça nous cause. Ça nous dit ici, le stress est une réaction naturelle. On dit quoi ça, naturel? Naturel dans la nature, on pourrait dire, si on prend un synonyme, c'est normal. Réaction normale. On vit tous. On fait partie de la nature, on est tous des êtres humains, on a tous vécu ou on vit, parfois plusieurs fois par jour, des stresseurs du stress. Comme je disais, à plus ou moins grand degré. Donc, c'est quelque chose de naturel. On peut dire aussi, naturel, c'est quasiment inévitable jusqu'à un certain point. Parce qu'on le vit tout. On a toutes des situations dans notre vie, comme on parlait tout à l'heure, qui vont nous amener du stress. Il y en a qui vont comparer ça aux émotions. Le stress, ce n'est pas une émotion, hein? On le dit ici, c'est une réaction, mais ça va amener souvent des émotions. Et là, les émotions, on va dire, bien là, une émotion, ça ne se contrôle pas. Il y a des choses qui se contrôlent, mais une émotion, ça ne se contrôle pas. Tu le vis, tu le ressens tout simplement. OK. On peut peut-être accepter qu'une émotion, ça ne se contrôle pas, mais qu'est-ce qui mène à l'émotion? Est-ce que ça peut se contrôler? On va en reparler tantôt. On va continuer la définition parce que ce n'est pas fini. Donc ça, c'est la première partie. L'action naturelle physiologique en passant. Donc ça, c'est quelque chose qu'on oublie parfois. Ça peut ressentir même dans le corps. Il se divise en deux composants principaux. L'intelligence artificielle a ses limites. Ça me parle de deux ici, puis il y en a trois, mais bon. C'est pour ça qu'elle est artificielle, l'intelligence. Donc, deux composants principaux. Premièrement, la recette du stress, ou ce qu'on appelle les déclencheurs, ce qui va déclencher une situation de stress. J'ai l'impression de donner une conférence de psychologie un matin, mais bon, on va revenir, faites-vous-en pas. Donc, la recette ou les déclencheurs du stress, selon les experts du domaine, que j'en ai fait pour partie, le stress survient généralement lorsque vous faites face à une situation qui combine l'un de ces éléments. Hein, on parlait tantôt ici d'adaptation. Donc, ça survient lorsque vous faites face à une situation qui combine l'un de ces éléments. Je ne sais pas si c'est une mauvaise définition ici en passant. Combine, ça veut dire que ça prend plus qu'une chose pour combiner. Donc, un ou plusieurs de ces éléments, je vous dirais. Intelligence moins artificielle, là. Donc, quatre points qu'il mentionne ici. Je mettrai les deux premiers ensemble et les deux derniers ensemble d'une certaine manière. Hein? Une nouveauté. Quelque chose de nouveau arrive dans notre vie. Une nouvelle situation. Naissance d'un enfant. Quelque chose de nouveau. Ou un imprévu. Bon, une nouveauté peut être prévue ou imprévue, donc c'est deux choses distinctes. Mais un imprévu qui arrive, dans les deux cas, il faut s'adapter. Ça peut être positif, une nouveauté, mais quand même, il faut s'adapter. Et cette situation-là pourrait amener du stress, bon ou mauvais. Donc, en d'autres termes, nouveauté imprévue, c'est un changement. Changement qui se produit dans nos vies. Et puis là, ça peut être une source de stress. Les deux autres, j'ai mis ensemble un petit peu jusqu'à certains points aussi, l'ego menacé. Orgueil un petit peu. On a encore de l'orgueil, malheureusement, dans nos vies. Notre ego, on se sent menacé. Peur de perdre notre place. Peur de se faire humilier. Peur de... Des fois, ça peut être même peur de parler du Seigneur. Hein? Ça peut me faire donner du stress. Pourquoi? Parce que là, ils vont tirer de nous autres. Ils vont-tu nous mettre de côté? Ils vont-tu trouver bizarre qu'on vient de notre planète? Exemple parmi tant d'autres. Donc, notre ego peut se sentir menacé. Je ne veux pas dire qu'il l'est en passant. On le sent menacé. La perte de contrôle, ça c'est le terme que ma femme n'aimait pas, mais bon. La sensation de ne pas pouvoir gérer la situation. Autrement dit, une situation qui arrive hors de notre contrôle. On aime ça contrôler. Et quand on ne peut pas contrôler, ça nous déstabilise. C'est un stressant. C'est stressant, hein? Il y en a qui ont plus ou moins de difficultés avec ça, mais même ceux qui ont moins de difficultés, il y a des situations qui vont arriver que, quand même. Il y a des situations aussi où il y a des gens, on dirait qu'ils ont le don de peser ces bons pitons. Hein? Aller chercher la chose qui va nous faire stresser ou l'émotion qu'on ne veut pas. Hein? Donc, les deux derniers, c'est face à notre personne. Je dirais, jusqu'à un certain point, de l'orgueil, mais on sent notre ego qui est menacé. On a tous un peu d'orgueil, appelez-le fierté ou quoi que ce soit. C'est juste de l'orgueil déguisé un peu. Hein? Donc, notre ego qui est menacé. Mais aussi, son père le contrôle. On a un sentiment qu'on ne contrôle pas. Puis, c'est pas nécessairement dans le sens de « je veux contrôler les autres, absolument ». Mais une situation qui arrive, qu'on peut pas rien y faire, on a un sentiment de perte de contrôle, c'est stressant, comme tu dirais. Hein? Parce que quand on a le contrôle, on peut toujours changer la situation. Quand on n'a pas le contrôle, on ne peut pas. Et c'est ça qui nous déstabilise et qui nous stresse. Parce que là, on n'a pas la possibilité de changer la situation. Donc, les castresseurs, nouveauté, imprévue, il peut y en avoir d'autres, hein, c'est les quatre qui sont mentionnés dans cette définition-là. Nouveauté, imprévue, égo menacé, puis perte de contrôle. Définition continue, les mécanismes dans le corps. On parlait de réactions naturelles et physiologiques. Donc, il y a des résultats dans le corps. Face à ces quatre déclencheurs-là qu'on a mentionnés, d'autres, si vous en pensez à d'autres, le système nerveux libère des hormones, comme l'adrénaline et le cortisol, pour préparer le corps à l'action. Donc, il y a un stresseur, un ours qui arrive en arrière de nous autres, c'est un stresseur. Hein? Notre corps prépare l'adrénaline et tout ça pour réagir. On reste pas là, ou on fait le mort, là. Je pense que c'était pas tout à fait vrai, hein? C'est une légende urbaine, c'est une histoire de faire le mort, mais bon, en tout cas. Prenez pas de mes paroles pour dire c'est de ma faute après. Je ne sais pas. Stressez-moi pas que ça. Donc, ça l'entraîne le corps, ça l'amène le corps à avoir une réaction physiologique. Cela entraîne plusieurs manifestations, des façons que ça va se manifester dans notre corps. Premièrement, les manifestations qui sont physiques. L'accélération du rythme cardiaque. Comme je vous dis, si l'eau s'arrive en arrière de nous autres, moi, en tout cas, le cœur va débattre un peu plus vite. Pas vous autres, là. Respiration plus rapide, tension musculaire. Et ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça peut être positif aussi. Hein? Donc ça, c'est des réactions physiques. Les réactions mentales. On dirait que le physique, c'est positif, mental, c'est négatif, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Hein? C'est des exemples qu'ils donnent là. Donc, l'inquiétude. Le stresseur nous amène de l'inquiétude. Les difficultés à se concentrer. Il y a des choses qui nous préoccupent. Et là, on doit faire d'autres choses. Mais c'est difficile de se concentrer sur ça. Hein? On doit se libérer l'esprit un peu. Et l'irritabilité. On est moins patient, en d'autres termes. Plein de situations qui peuvent arriver où les gens qui peuvent se présenter, puis ça nous irrite. Pas parler nécessairement de se mettre en colère, hein? Pas toutes les gens qui sont colériques, mais on est plus irritable. On remarque que les personnes sont plus à fleur de peau, il faut faire attention à ce qu'on dit, ou des choses comme ça. Donc, irritabilité en fait partie aussi. Et bien sûr, il parle des manifestations physiques, hein, négatives, dans le sens que psoriasis, c'est, je sais pas trop, l'eczéma, des choses comme ça, mais maux d'estomac, etc., etc., qui sont négatives. Troisième point, même si tu disais qu'il y en avait deux, les types de stress. Bien qu'ils soient souvent perçus négativement, on met souvent l'emphase sur le négatif. Le stress n'est pas une maladie. Donc, on parle du stress positif et de stress négatif, les deux types. Donc, le stress positif, ils appellent ça le stress. Je ne sais pas si le psychologue en arrière va dire ça. Psycho-éducateur, OK. Il vous motive. Il vous donne de l'énergie pour atteindre un objectif ou vous sortir d'une situation difficile. Donc, un stress positif qui motive, qui donne de l'énergie, On parlait tout à l'heure de fuir. pour atteindre un objectif ou vous sortir d'une situation qui est difficile. Différents exemples de ça. Je ne savais pas si ma fille serait en haut ou en bas ce matin, mais bon. Ma fille, elle a ce que ma femme appellerait du stress, l'anxiété, pour prendre son terme, de performance. Anxiété, stress, les deux, c'est pas la même chose, mais c'est semblable. Stress de performance, ça donne quoi, ça? Ça fait qu'elle étudie beaucoup, qu'elle est très minutieuse dans ses travaux à l'école. Et elle a des bons résultats. Mes deux gars, ils n'avaient pas ce stress-là, eux autres. Je peux vous le dire. Donc, c'est un stress qui est positif et négatif en même temps, parce que oui, c'est sûr que quand elle vit le stress, c'est négatif. Il ne faut pas que ça se prolongerait trop longtemps. Si ça se prolongeait pendant des semaines, ça pourrait avoir des conséquences physiques. Mais si ça dure pendant quelques heures, le temps qu'elle se prépare pour son examen, des choses comme ça, ça peut être positif parce que ça la pousse à se dépasser, à faire attention, à étudier, etc., etc. Donc, motive, ça donne de l'énergie, hein, pour son objectif. Moi, hier, j'avais une grosse journée. OK, le matin, il fallait que je prépare le massage. On avait quelque chose le soir aussi. Grosse journée, grosse fin de semaine. Stressant. J'avais pas beaucoup dormi en plus. Ah, c'est ça à cause du stress, je ne sais pas. Mais ça arrive comme ça. Hein? On dirait que c'est toujours dans ces journées-là qu'on dort moins. Stress positif ou négatif? Bien, grâce à ce stress-là, j'ai préparé le massage. Si j'aurais pas eu de stress, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais relaxé, j'aurais écouté le Grand Prix ou des choses comme ça. Hein? Est-ce que c'est négatif de se reposer? Pas du tout. J'espère que Stéphane peut se reposer quand les fins de semaine que je prêche. C'est ça le but que je prêche une fois par mois. Donc, c'est loin d'être négatif de se reposer. Mais dans ce cas-ci, le stress, vous avez déjà entendu parler de la procrastination. Hein? C'est quoi la procrastination? On remet toujours à plus tard. Hein? On donne à mon garçon deux choix. Veux-tu faire le ménage jeudi ou vendredi? Quelle journée qu'il va prendre? Ah! Parfois, des fois, il y a des choses à faire le vendredi puis pas le jeudi, mais guess what? Il prend le vendredi. Hein? Toujours pousser le plus tard possible. Hein? Les travaux de session à faire, les étudiants, ils reçoivent le travail le 1er février, exemple, puis ils se remettent le 31 mars. Quand est-ce qu'ils vont le faire? 29 mars, 30 mars, plusieurs sont comme ça. OK? Souvent. Ça arrive, il y a des exceptions, mais souvent, ça va être comme ça. Hein? Ils vont le faire à la dernière minute. Des fois, ils ne dormiront pas de la nuit pour faire le travail, mais c'est fait, mais à la dernière minute. Donc, le stress, les pousse à bouger. Hein? Donc, on serait peut-être pas mal plus procrastinateur si on n'avait pas ce stress-là. Donc ça, c'est le stress positif qui amène à bouger. Stress peut-être un peu plus négatif, celui qu'on voit souvent, le stress chronique. Parce qu'on l'a dit, hein, le stress, ce n'est pas nécessairement un problème, ça peut être positif. Ça devient un problème quand il se prolonge, quand il est fréquent, quand il est intense. Donc, un stress chronique. Il survient lorsque la pression est constante, justement, et le corps ne peut pas récupérer. Ça peut peut-être donner une adrénaline sur le coup, mais après ça, ça fait le contraire. Ça amène quasiment un état de dépression ou de stress constant. Et la tête et le corps ne peuvent pas prendre le dessus. Le corps ne peut pas récupérer. Cela peut entraîner des problèmes de santé. La fatigue, on ne dort pas bien, l'insomnie. Hein? L'anxiété, on se pose des questions, qu'est-ce qui va se passer? On se projette souvent dans l'avenir, hein? Et c'est ça qui nous cause du stress. On ne sait pas ce qu'il va y avoir dans l'avenir, mais on se l'imagine, rarement positivement. Et même, à la limite, des maladies cardiovasculaires. Problèmes de cœur, problèmes même, pas mentionné ici, problèmes d'estomac, des choses comme ça, hein? La bile et tout ça. Si la situation persiste, donc c'est le stress un peu plus négatif, hein, qui peut avoir des effets sur la santé. Bifurque un petit peu. On peut-tu mettre ça dans la catégorie de stress? Peut-être. Ce serait plus ma femme qui pourrait répondre à ça, mais une chose qui est source d'anxiété parfois, quand il n'y a pas de pardon, on garde rancœur. Ça, ça peut causer des maux d'estomac aussi. Surtout si on est appelé à être confronté à revoir cette personne-là. Là, ça nous cause du stress, qui nous cause de l'anxiété, etc. Servicieux. Un mène à l'autre. Hein? C'est pas tout à fait la même chose, mais un mène à l'autre. Et le problème ici, comme on se dit, c'est si la situation persiste, quand ça continue, et ça continue, et ça ne se règle pas. Et parfois, il peut y avoir plusieurs stresseurs. Hein? On peut en régler un, mais s'il y en a d'autres qui ne sont pas réglés, ça s'accumule. Et même s'il y en a 10, puis on en règle deux, puis il y en a 2 ou 3 autres qui arrivent après, on dirait qu'on s'en sort pas. C'est un cercle vicieux, comme on dit, en bon québécois. On dirait qu'on s'en sortira jamais. Comme on a mentionné tantôt, dans la définition, c'est une réaction naturelle, normale. Donc, les émotions, et des émotions sont rattachées à ça. Le stress lui-même n'est pas une émotion, mais ça l'amène des émotions. Donc, c'est pour ça que je les confronte parfois avec les émotions. Puis quand on dit des émotions, comme on disait tantôt, on peut dire que c'est incontrôlable. Mais la définition, c'est une réaction, c'est pas une émotion. Alors, on peut peut-être la contrôler, hein? Réaction à quoi? Bien, on a mentionné 4 choses, hein? Nouveauté, imprévu, égo menacé et perte de contrôle. Donc, je pense, et là, je dois observer en arrière, là, mais je pense que je peux dire, sans me tromper, que le stress est un processus. Le stress lui-même, ou l'événement stresseur, si je peux dire ça comme ça, c'est pas nécessairement négatif, mais mes réactions face à ça, les émotions qui viennent après, ça peut être négatif. Et ça, c'est ce qui a le moins de contrôle dessus, les émotions. Ceci dit, le stress mène à l'émotion. Est-ce que c'est possible de couper avant que l'émotion vienne, ou dès le début de l'émotion, pour éviter justement que l'émotion s'amplifie, disons-le comme ça? Je pense que oui. Hein? Le stresseur ou les émotions, l'anxiété qui vient face au stress, si je prends ce terme-là, c'est produit par notre façon de réagir à la situation, qui est le stresseur ou le stress. Donc, c'est notre perception. Elle peut changer. Même si la situation ne peut pas changer, la perception de la situation peut changer. Donc, à ce moment-là, notre réaction peut changer aussi. J'ai mis une petite note ici parce que je sais qu'il y en a dans la salle, mais il y en a aussi peut-être qui nous écoutent. Je ne suis pas un psychologue, je n'ai pas étudié dans ça de façon avancée. Je veux faire attention aux termes pour prendre les bons termes. C'est pour ça que j'ai mis une définition, mais parfois, ça se peut que mes choses se chevauchent. Comme je disais à mon épouse hier, là, « Ah non, faut-tu prendre ce terme-là? » On va y aller, j'ai pas une fin de semaine pour faire une conférence. Donc, on va y aller à la base. Et comme je disais, dans la Bible, il n'y en a pas. Stress, ça vient, c'est un mot de la fun, hein, en passant. Stress. Donc, ça n'existait pas pour plusieurs années et tout ça. Donc, c'est assurément pas dans la Bible. Stress, anxiété, toutes ces choses-là. Par contre, ce qu'on a dans la Bible, c'est des mots pour l'inquiétude, inquiet, les soucis. Alors, si je prends la définition littérale, peut-être que vous allez me dire que c'est pas la même chose. Pour ce matin, les besoins de ce matin, on va les mettre ensemble. OK? Les inquiétudes, les soucis, on va mettre ça avec le stress. Et ça, la Bible en parle beaucoup, de l'inquiétude. Ça, c'est la belle chose, hein? Parenthèse. Dieu a créé nos sentiments. Dieu nous a créés, Dieu nous connaît. Il n'est pas déconnecté de ce qu'on peut vivre ou ressentir. Donc, Dieu comprend. Dieu ne cache pas ça dans sa parole. Il ne cache jamais les choses négatives autant que les positives. Donc, il en parle de ces choses-là. Il ne parlera pas de choses qui n'existaient pas à l'époque nécessairement, mais les situations que tout le monde vit de toute éternité, comme ceux-là, la Bible en parle. Donc, différents mots que je vais vous apporter pour parler de inquiétude ou autre mot. Donc, le premier mot, c'est inquiet, inquiétude. C'est dans l'Ancien Testament. Donc, petite définition, le déaga. Il n'y a pas d'examen là-dessus. Stressez pas. Mais bon, juste pour savoir un petit peu, parce que j'aime parfois, vous allez voir, dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs définitions. Fait que c'est le fun de savoir. En français, ça dit toujours le même mot, mais oups, c'est peut-être pas la même chose dans l'original. Il peut y avoir des nuances. Donc ici, dans l'Ancien Testament, on va en voir juste un. Donc, anxiété, angoisse. Ça peut amener à l'angoisse. Tourmenté, inquiet ou souci. Et ce mot-là, comme bien souvent même en français, dérive d'un autre mot qui veut dire être en peine ou redouter. Ben, c'est souvent ce qui arrive. Hein? On a de l'angoisse ou de l'anxiété, c'est souvent en prévision de ce qui va peut-être se passer. Enseigné tout à l'heure. Ce mot-là, on le retrouve à quelques reprises. Je ne citerai pas tous les versets. Parfois, c'est moins pertinent. Je vais en citer quelques-uns. Premier, Proverbe 12, 25. Vous l'avez cité dans votre fin de semaine de femme. Je l'ai vu dans le PowerPoint de ma femme. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Ça a l'air que c'était le cœur de la femme aussi en passant. On confirme? Mais une bonne parole le réjouit. On se concentre plus à la première partie aujourd'hui, bien sûr. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. C'est pas le côté nécessairement positif, ça. Hein? Être abattu par l'émotion, par l'inquiétude. C'est assez rare que l'inquiétude ou le stress, si on prend le terme de ce matin, terme 2026, c'est assez rare que ça va produire de la joie, de la paix. Hein? Un beau stresseur qui s'en vient, je suis tellement content. C'est assez rare, assez rare. Des choses comme ça, hein? La paix. Ça me met en paix qu'il y ait un stress qui s'en vienne. Il faut juste annoncer des orages d'une fois dans la journée, puis déjà, c'est un stresseur négatif. Surtout si on est sorti en moto, hein? Donc, ça n'apporte pas la paix ou des choses comme ça. C'est rare que ça apporte ça. Plutôt, ce que ça va apporter, c'est ce que la proverbe dit ici. Ça, là-bas. Et littéralement, là-bas, ça veut dire quoi? Courber, se courber. Ça écrase, en bon québécois. Hein? C'est un fardeau sous le poids. On croule sous le poids des inquiétudes. Donc, ça là-bas l'esprit, ça peut abattre le physique aussi. On l'a vu tout à l'heure, hein? On est plus irritable, on dort moins, etc. Ça peut venir là. Et là, je ne fais pas une généralisation que ça arrive tout le temps. Comme je disais, il y a différents degrés de stress aussi, différentes façons, différentes que les personnes réagissent aussi. Mais ça peut amener là. Autre passage, et là, vous allez trouver peut-être un petit peu plus bizarre celle-là, mais je vais vous expliquer après pourquoi je vous en parle. Dans Josué 22, 24. Je vous explique le contexte après, je vous lis le verset avant. C'est bien plutôt par une sorte d'inquiétude, le mot qu'on cherche, que nous avons fait cela en pensant que vos fils diraient un jour à nos fils, « Qu'y a-t-il de commun entre vous et l'Éternel, le Dieu d'Israël? » Sans contexte, ça peut avoir l'air bizarre. Donc, contexte. On est dans Josué. Josué, c'est quand? C'est après l'Exode. La sortie d'Égypte, si vous préférez. À ce moment-là, Moïse est déjà décédé et ils ont terminé la conquête du pays. Bon, terminé est un grand mot parce qu'ils ne l'ont jamais complètement conquis, le territoire qui était supposé, mais bon, ils sont établis. Ceux qui connaissent un petit peu l'histoire, le pays promis, il était divisé par le fleuve du Jourdain. Et il y a deux tribus et demie, parce qu'il y a une tribu qui se sépare en deux, deux tribus et demie qui étaient de l'autre côté du Jourdain. Donc, séparés par le fleuve. À l'époque, c'était pas comme aujourd'hui avec des ponts, c'était pas si facile que ça de traverser. Alors, quand tout a été fini, ils sont retournés dans leur section de terre, si je peux dire ça comme ça. Et ils se sentaient un petit peu, si on peut dire, mis à part. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de construire un autel à l'honneur de l'Éternel pour, comme ils disent ici, si jamais dans X génération, ils nous disent « Hey, c'est qui ça là? Ça t'a part, comment ça? » Bien, qu'ils disent « Oui, oui, nous autres, on fait partie du même peuple. On honore l'Éternel, nous autres aussi. » Ça, c'était leur façon de penser. Mais c'est pas tout à fait comme ça que ça a été reçu de la part du reste du peuple. Pourquoi? Parce qu'autel égale quoi? Idolâtrie. Alors, le reste du peuple d'Israël, quand ils ont vu qu'ils avaient construit un autel, ils se sont dit « Wow, minute, ils se détournent déjà de l'Éternel. Ils veulent faire un autre autel. » Parce qu'oubliez pas, Dieu, il dit déjà, ce n'est pas encore le cas, mais il prophétise déjà qu'il va avoir un seul lieu pour l'adorer. Donc, eux autres, wow, sont en train d'adorer d'autres dieux. Et s'ils adorent d'autres dieux, il va avoir des répercussions sur nous autres, parce qu'on fait toute partie du même peuple. Donc, malédiction sur nous autres aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller les détruire. Belle solution. Donc, ils s'arment pour partir en guerre contre les tribus de l'autre côté. Ils venaient juste de conquérir. Hein? Ça n'a pas été trop long, la chicane à poignée. Heureusement, avant de les attaquer, ils nous ont quand même parlé, puis ils ont demandé des explications, et c'est là qu'ils ont reçu cette explication-là. Morale de cette histoire. Pourquoi je vous parle de ça ce matin? J'ai pas peur que vous fassiez d'autel. Non. Mais avez-vous compris, dans cette histoire-là, de ce contexte-là, que ce qui a mené presque à une catastrophe, l'anéantissement d'un peuple, c'est assez grave, c'est une mauvaise compréhension de la situation, une mauvaise compréhension de ce qui se passait, des craintes non fondées. Je pourrais même m'extrapoler puis dire le mensonge. Ça ne vous fait pas passer à des choses qu'on vit des fois de nos jours? Trop souvent, notre anxiété, comme je mentionnais tantôt, puis je vais le mentionner encore, je suis fatigué, hein? L'anxiété, ça vient pas de choses réelles, ça vient de messages qu'on se fait, nous autres mêmes, dans notre tête, ou par l'ennemi, si vous préférez. Mais on est bon pour se l'aider un petit peu. On se fait des scénarios, on se suppose, on voit une situation, puis on interprète la situation, hein? Sûrement que c'est ça qu'il voulait faire quand il a fait ça. Sûrement quand il est passé à côté de moi, puis qu'il ne m'a pas salué, là, c'est parce qu'il m'en veut. Parce que j'ai fait de quoi? Mais j'ai rien fait, mais lui pense que j'ai fait de quoi. Mais, et là, ça part, et ça part, et ça part. Hein? Non, ça ne vous arrive pas, OK, ça arrive juste à moi. Ça arrête au stage ici, là. Hein? On interprète des choses qui sont fausses. Et on part de là, puis on se fait des stress, on se fait des scénarios. À part ça, la personne qui ne nous a pas salué, elle n'est même pas consciente. Elle n'a pas de problème, elle. Qui a les problèmes? C'est nous autres qui se fait les mauvais scénarios. Et ça, c'est un exemple bien banal. Hein? Il y a des exemples bien pires que ça. Donc, il faut faire attention à nos pensées. Soumettre nos pensées à Dieu, soumettre nos pensées à la vérité, en d'autres termes, aller valider les faits, aller chercher la vérité, et après ça, on pourra stresser. Non, après ça, peut-être qu'il n'y aura pas de raison de stresser. Hein? Ça peut éviter bien des soucis et des situations fâcheuses, comme dans le cas ici. Je lis, parmi tant d'autres choses, un livre que vous avez peut-être déjà entendu parler, « Nouvelle identité pour une nouvelle vie ». Ce qu'il mentionne, et là je suis encore au début, mais ce qu'il mentionne dans ce livre-là, c'est que bien souvent, il rencontre des couples qui ont des problèmes, il rencontre des gens qui ont différents problèmes, et différents combats qu'ils ont dans leur vie, exemple, des choses comme ça. Et souvent, ça vient d'une chose, de notre... Je vais prendre mon terme à moi, pas le sien, mais notre cassette qu'on a dans notre tête. Hein? Nos lunettes qu'on met, qui nous font voir les choses, ou la cassette qu'on se passe dans notre tête. En d'autres termes, bien souvent, c'est le mensonge. Si on revient à la vérité, à être conscient de qui on est en Jésus-Christ, à être conscient de ce qu'il a fait, etc. Exemple, on est des rois, on a la victoire, etc., etc. De revoir ces vérités-là, qu'on sait déjà, mais qu'on ne pense pas quand c'est le temps, ça remet les choses en perspective, puis bien souvent, il y a bien des problèmes qui sont réglés. On verra si on en parle un jour. Mais tu sais, ça me fait penser, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Hein? Quand le stress devient négatif, c'est souvent qu'on n'est pas libre dans notre tête, dans nos émotions. Satan est appelé le père du mensonge par Jésus lui-même, hein? Dans Jean 8, 44. Donc, les mensonges qu'on se fait dans nos têtes, ça ne vient pas de Dieu. Alors, remplacez ça par la vérité, va te déjà aider beaucoup. Autre citation qui utilise le même mot, autre passage dans l'Ancien Testament qui utilise le même mot, et ça, c'est une belle promesse. Oui, ça parle d'inquiétude, mais comment Dieu est là dans l'inquiétude, si je peux dire ça comme ça? Ésaïe 41, 10. Vous connaissez peut-être ce passage-là, hein? Il parle au peuple, mais on fait partie du peuple maintenant, même si on n'est pas Israël. Ne crains rien. Hein, la peur. Car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Et c'est là notre mot. Ne promène pas des regards inquiets. Pourquoi? Car je suis ton Dieu. Hein, l'écart ici, c'est une opposition. Hein? Ça donne une raison. Tu n'as pas besoin de promener des regards inquiets, si je paraphraserais en version Nelson 2026, parce que, bonne raison, je suis ton Dieu. Et qu'est-ce qui fait notre Dieu? Je te fortifie. C'est lui qui fortifie. Ça veut dire quoi fortifier? Rendre plus solide, hein? Inébranlable. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. La droite, dans la Bible, c'est la main forte, c'est la main du pouvoir. Hein? Jésus est à la droite de Dieu, au ciel, etc. Et là, on a une droite qui est triomphante. Elle veut dire quoi qu'elle est triomphante? Elle a déjà la victoire. Si je sais que, je vais vous donner un exemple, le Canadien gagne la Coupe Stanley cette année, ceux qui suivent ça. Est-ce que je suis stressé qu'ils ont perdu hier soir? Moi, ben, hein? Je sais déjà l'issue. Je ne sais pas combien de matchs, contre qui, peu importe, je sais qu'ils vont gagner pareil. Ben, c'est ça avec Dieu. La victoire, on l'a déjà. C'est sa droite triomphante. On sait déjà ce qui va se passer. On sait déjà qu'il est au contrôle. On sait déjà qu'il y a de la victoire. Pourquoi qu'on s'inquiète? Si un, ouais, il n'est jamais en retard. S'il y a un échec sur le chemin, ça ne veut pas dire qu'on ne se rendra pas à destination. On sait déjà la fin. Je ne sais pas si je devrais dire ça. Des fois, ça fait du bien de juste se dérider un petit peu. Fait que je ne sais pas, je passe à une blague, là. Ceux qui connaissent Rato, un personnage de Jean-Michel Anctil. Hein, il parle qu'il a vu le film Titanic, puis il dit, qui c'est qui est embarqué sur le Titanic? Il y a une niaiseuse qui est embarqué sur le Titanic, hein? Je suis sûr qu'ils n'ont pas vu le film. Oh! Ils ne connaissaient pas la fin de l'histoire, eux autres. Bon. OK. Ça mérite une gorgée, ça. Bon. Des fois, pour se reconcentrer, il faut rire un peu. Donc, oui, on connaît la fin de l'histoire. On connaît c'est qui a gagné. Alors, pas besoin de se stresser d'un échec. Ou d'un semblant d'échec, des fois, parce que ce n'est pas nécessairement un échec. on ne sait juste pas ce qui va se passer. Mais nous autres, on sait ce qui va se passer à la fin. Pas dans une situation particulière. Exemple, on en parlait tout à l'heure, Suzanne en a parlé aussi, le terrain. On ne sait pas encore comment ça va se conclure. Donc, cette situation-là particulière, on ne sait pas comment ça va se terminer au moment où on se parle. Mais on sait que Dieu a la victoire. On sait que Dieu est au contrôle. On sait que Dieu nous a préparés depuis un an et demi déjà qu'on est dans cette situation-là, etc. Ça veut dire que demain matin, Dieu arrête d'être au contrôle. Assurément pas, hein? Il va continuer à l'être. Et on peut y faire confiance, puis remettre ça entre les mains. Et si ça venait à échouer pour X raisons, bien, c'est Dieu qui est au contrôle aussi. C'est Dieu qui a voulu ça, donc il y a d'autres choses. Donc, il ne faut pas s'en faire. C'était pour l'Ancien Testament. Nouveau Testament, il y a plusieurs mots dans le Nouveau Testament. Le premier mot qu'on va garder, c'est « mello », M-E-L-O, comme dans « vas-y, mello ». Non, pas ça. On va être relax, contraire de stresser. Non, non, « mello », définition. S'inquiéter de quelque chose. Bien là, ça va tout être autour de s'inquiéter, mais il y a des petites nuances. Se mettre en peine ou prendre soin. Donc, mello n'est pas nécessairement un terme négatif ici. On prend soin de mes brebis, le Seigneur, ou le berger. Donc, il s'inquiète pour ses brebis. Un pasteur, ça s'inquiète-tu? Pour ses brebis? Je pense que oui aussi, hein? Donc, c'est mello. Tu prends ça, mello. OK? Donc, Louis Segond le traduit par ça. S'inquiéter, se mettre en peine. En québécois, on pourrait dire aussi, en bon québécois, hein, si ça te dérange ou ça ne te dérange pas. Hein? Et là, on a des exemples de ça. Je vais en citer une couple, juste pour vous mettre dans le contexte de ce mot-là. Quand les disciples étaient dans la barque, dans la tempête, hein? Et Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Il dormait. Alors, ils l'ont réveillé. Puis, ils ont dit quoi? Ça. Ils réveillèrent et lui disaient, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Est-ce que tu es mello? Est-ce que tu t'inquiètes? Tu te préoccupes? Ça ne te dérange pas? On est en train de périr, puis ça ne te dérange pas? » C'est ça le terme qu'il utilise ici. Donc, ce n'est pas des inquiétudes, mais est-ce que ça ne te préoccupe pas qu'on est en train de payer? Autre exemple, Matthieu 22, 16, les pharisiens approchent Jésus pour étendre un piège et lui disent ceci. « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter, mello, de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. » Jésus ne s'inquiétait pas, ne se préoccupait pas de l'opinion des hommes. Pourquoi? Bien, comme on a mentionné tout à l'heure, hein, Jésus n'a jamais eu de problème d'identité. Il savait, il sait encore qui il est, ce qu'il a, son pouvoir, etc. Le futur aussi, bien sûr. Donc, l'opinion que les hommes, les êtres humains avaient de lui, il s'en foutait pas mal. Il ne se levait pas un matin, puis là, il faut que je fasse ça, parce que sinon, là, qu'est-ce qu'ils vont penser? Non, il ne s'inquiétait pas de ça, lui. Il connaissait sa vraie identité, il connaissait sa mission. Donc, de connaître la note, ça va nous aider aussi. On n'a pas le temps de faire le tour de tout, bien sûr, mais peut-être une autre fois. Il n'y avait pas besoin de recevoir, comme j'ai écrit aussi, hein, leur opinion, mais il n'y a pas besoin de savoir leur compliment non plus. Il n'attend pas de savoir... « Ouais, bien là, si je ne me fais pas remercier, si je ne me fais pas complimenter, bien, on va peut-être changer de job ou quoi que ce soit, parce que là, j'ai besoin d'être ça, moi, pour m'estimer, monter mon estime. » Pas besoin d'être ça, Jésus. C'est aussi ce mot-là, « mello », qui est employé par Paul dans 1 Corinthiens 7, là, je résume beaucoup, qui parle que les célibataires, ils s'inquiètent des choses du Seigneur. Alors que la personne mariée, l'homme envers sa femme ou la femme envers l'homme, s'occupe des moyens de plaire à sa femme, à son épouse ou la femme à son mari. C'est inquiète ici. Est-ce que Dieu est en train de dire ou Paul est en train de dire « mariez-vous pas, vous allez être inquiets, Non. Oui, ça donne des inquiétudes, comme le fait d'avoir un bébé, ça donne des inquiétudes, etc. On l'a mentionné tantôt, c'est une nouveauté, c'est un stresseur. Et le fait d'être en couple aussi, on doit s'occuper, prendre soin de notre femme, notre mari, nos enfants, etc. Donc oui, ça l'amène un petit souci, un petit stress. Un petit bello. Peut-être un gros des fois, à l'adolescence surtout. Mais il n'est pas en train de dire de ne pas le faire. Mais c'est sûr qu'il dit, si vous êtes célibataire, vous vous occupez plus des choses de Dieu. Vous avez moins l'esprit occupé à autre chose, en d'autres termes. Son but, ce n'est pas de décourager, par contre, le mariage. Hein? Mais oui, il y a un souci supplémentaire quand on n'a pas juste notre personne à penser, mais celle d'un autre aussi. Il y a un côté positif aussi. 1 Pierre 5, 7, le même mélo. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. C'est un autre mot qu'on va voir tantôt, ça. Car lui-même prend soin de vous. Ah, donc en français, ici, c'est pas traduit inquiété, mais c'est le même mot. Lui-même prend soin, il s'inquiète, se préoccupe de vous. Ça, c'est le fun, hein, savoir que le Seigneur s'occupe de nous. Un berger qui s'occupe de ses brebis. C'est pas négatif, ça. Le deuxième terme qu'on va mentionner, merim nao. Merim nao. Séparer, diviser, partager. Oui, c'était réduit par inquiétude. Mais la racine, parce qu'il vient toujours d'un autre mot, hein, la racine veut dire séparer, diviser, partager. Ah! Et on en a un bon exemple de ça dans la Bible. En fait, il y a un passage qui a les deux mots. Séparer, diviser, partager. À quoi qu'on pense quand on pense à ça? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir tellement de préoccupations dans la tête en même temps. On ne sait plus où donner de la tête, un bon Québécois. Hein? La tête est séparé, divisé en plusieurs morceaux. On essaie de compartimenter, mais ça ne se fait pas nécessairement. Hein? On est très préoccupé par plusieurs choses. Bien, c'est un peu ça que ça veut dire ici. Hein? Ça peut mener à l'insomnie ou plein de pensées qui nous assaillent. Hein? On a de la misère à se concentrer sur une tâche parce qu'on a d'autres choses qui nous préoccupent. Donc, c'est ça ici. Notre esprit est divisé en plein de parties. Comme je vous disais, Marthe et Marie, il y a les deux termes, Mélo et Merim Nao, qui sont dans cette histoire-là. On ne lira pas l'histoire complète, mais au verset 40, Luc 10, 40, ça nous dit ceci. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien? » Ah, Mélo. « Cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Est-ce que ça te laisse indifférent, en d'autres termes, que ma sœur ne m'aide pas? Et au verset 41, qu'est-ce que Jésus lui répond? Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, et c'est le terme Merim Nao aussi, et tu t'agites pour beaucoup de choses. Le fait de savoir Merim Nao, ça veut dire séparer, diviser. Hein? Marthe, son esprit est occupé à plein de choses. Elle essaie de préparer. Hein? Ses pensées n'étaient pas focussées sur une chose. Marie était focussée sur une chose. Elle écoutait Jésus. Elle posait des questions, discutait avec lui. Marie, elle, ouf, il y a plein de choses. Son esprit est divisé. Plein de choses qu'elle doit s'occuper pour le service. Hein? Plein de soucis. Hein? Elle reçoit Jésus dans sa maison. C'est pas n'importe qui, là. Est-ce qu'il va être bien? Le ménage est-il fait? Il ne faut pas que ça soit trop cuit. Oups, j'ai-tu passé aux patates? Oh non. Hein? S'il n'aime pas ça, il va te revenir. Il faut que tout soit parfait. Hein? Plein de choses dans la tête. Ça ne nous arrive pas, nous autres. Non, non, non. On ne se voit pas. Non, non. Ça ne nous arrive pas, on ne se voit pas. Non, non. Hein? Ben ton lunch. Mais ça nous fait peut-être comprendre un petit peu de la façon différente l'histoire qui est ici. Hein? Marthe est préoccupée par plein d'affaires. Jésus lui dit, « Hey, il y en a juste une qui est nécessaire. » Celle que Marie a le prix, de focusser son esprit sur une chose. Inquiète-toi pas de tout ce qui est autour. Perspective peut-être un petit peu, en tout cas dans mon cas, différente de cette histoire-là. J'avais déjà une pensée quand même semblable à ça, mais ça précise encore plus. Mérimnéo, c'est aussi le terme que Jésus y emploie dans le sermon sur la montagne. Et ça, on va le lire un petit peu plus. 5 à 7, c'est tous les sermons sur la montagne, donc 6 en fait partie. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? On saute le verset 26, verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée? Ou, dans d'autres traductions, un instant, parce que coudée, c'est quoi? C'est la distance du coude jusqu'au bout de la main. 55 cm. Personne ne peut ajouter 55 cm. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Une durée. Donc, un instant à la durée de sa vie. Est-ce que nos inquiétudes peuvent ajouter du temps? Non. Il y a plus de chances qu'ils n'enlèvent, qu'ils n'ajoutent. Hein? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Et pourtant, les lys, blablabla. Donc, je vais sauter les autres versets pour revenir à ceux qui parlent d'inquiétude. Verset 31, « Ne vous inquiétez donc point. » Pour ça, « Ne vous inquiétez », c'est un commandement. Hein? Je dis ça comme ça. « Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? » Et là, je saute des versets, mais il dit, « Il y a juste les chrétiens qui pensent comme ça. » Non, c'est pas ça. Il dit, « C'est les païens qui pensent comme ça. Vous autres, Dieu le sait, vous en avez besoin. Donc, inquiétez-vous pas de ça. » Verset 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Et honnêtement, il y en a qui n'ont pas le tour d'un fois, hein? De se faire dire de ne pas s'inquiéter quand tu t'inquiètes. Le Seigneur ne veut pas. Dieu ne veut pas. Ça ne nous aide pas trop, hein? Ça ne change pas la vérité. Tout ce qui est écrit là, c'est vrai. Dieu est présent, etc. Exemple, aucune tentation qui est survenue au-delà de nos forces. C'est vrai. Quand on est dedans, des fois, on ne le sent pas. Mais ça ne change pas la vérité pareil. C'est ça la vérité quand même. Le fait de savoir ça, c'est pas juste une bonne petite pensée positive en passant. Le fait de savoir pas s'inquiéter, si on ne s'inquiète pas, ça ne changera pas la situation. Mais devinez quoi? Si on s'inquiète, non plus, ça ne changera pas la situation. Oui, ça donne une énergie à un moment donné pour trouver des solutions. On en a parlé un peu. Mais la vraie inquiétude là, qui nous porte à avoir quasiment des maux d'estomac et tout ça, ça ne changera pas la situation. Mais Jésus, là je vais revenir plus en détail sur le passage, Jésus nous donne des raisons pourquoi qu'on doit. Puis là, j'ai des versets, je ne les ai pas toutes citées, donc je vais quand même ouvrir ma Bible ici. Il donne des raisons à ne pas s'inquiéter. La première raison, pourquoi qu'on ne s'inquiète pas, verset 25, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Des fois, on focus aux mauvaises places. Hein, vous avez déjà entendu ça? Des fois, l'urgent prend le dessus sur l'important. De manger, d'avoir le prochain repas, exemple, dans ce cas-ci, va être plus important que pour le reste de la vie, alors qu'il y a d'autres choses bien plus importantes que ça. Oui, c'est un besoin nécessaire, OK? Pyramide de Maslow et tout ça. Il faut se nourrir. Mais la préoccupation qu'on a de chaque jour, à chaque repas? Non. La vie est plus que ça. Deuxième chose qu'il mentionne, il donne l'exemple. Deux exemples, dans le fond. Verset 26, puis le verset 28 à 30, qu'on ne lira pas. Les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent et n'amassent rien dans des greniers. Ils ne font pas de réserve, contrairement, exemple, à des écureuils ou d'autres. Et votre Père céleste les nourrit. Deuxième raison de ne pas s'inquiéter. Les oiseaux, Dieu y en prend soin. Il va prendre soin de nous autres aussi. Et j'ai toujours dans la tête, quand je lis des choses comme ça, George Mueller, que j'ai déjà mentionné, si vous connaissez, hein, il a volontairement eu un orphelinat, deux orphelinats même, par la foi. Et son but, c'était ça, il mettait tout par écrit, parce que son but, c'était ça, de démontrer que Dieu répond à la prière et prend soin de ses enfants encore aujourd'hui, dans des années 1700, 1800, mais quand même. Aujourd'hui, ça n'a pas changé non plus. Donc, deuxième raison, les oiseaux ne font pas, puis Dieu n'en prend soin. Il est nourri. Et je dirais la troisième raison, j'ai cité à part, parce qu'il dit après ça quoi? Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux. On a plus de valeur aux yeux de Dieu que les oiseaux. Ça vous surprend? Pas moi. Sauf qu'on ne fait pas le bon calcul des fois. Hein? On sait qu'on a plus de valeur que les oiseaux, j'espère. Mais on ne fait pas le calcul. Si on prend soin des oiseaux puis qu'on a plus de valeur, ça veut dire quoi d'habitude la conséquence ou la conclusion? C'est qu'il prend soin de nous autres aussi. Donc, c'est une bonne raison de ne pas s'inquiéter. Il est au contrôle, il prend soin de nous autres. Quatrième raison. S'inquiéter ne fera pas de différence positive. Qu'est-ce qu'il dit? Qui, par ses inquiétudes, peut allonger d'une coudée ou d'un instant la durée de sa vie? Hein? Comme j'ai dit tantôt, ça peut faire le contraire. Rire, ça a l'air que ça allonge la vie. Être stressé, être dépressif, je pense que ça fait plutôt l'effet contraire. Ça amène des maladies trop souvent qui, bien sûr, vont raccourcir la durée de la vie. Donc, ça ne fera pas de différence positive de s'inquiéter. Alors, c'est une bonne raison de ne pas s'inquiéter, je pense. C'est plus facile à dire qu'à faire, je ne dis pas le contraire. Mais c'est des raisons qui nous donnent de ne pas s'inquiéter. Cinquième raison, verset 32. « Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. » Comme je l'ai dit, celle-là, je ne l'ai pas mentionné. « Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » Il le sait. Et ce n'est pas une connaissance inactive. Je le sais. Oh. Là, c'est qu'ils ont besoin. Non, non. S'il sait qu'ils ont besoin, il va pouvoir aussi. On n'a pas besoin de passer notre temps à demander « Seigneur, j'ai besoin! Seigneur, j'ai besoin! » Il sait qu'on a besoin. Donc, il pourvoit. Bonne raison de ne pas s'inquiéter. Sixième raison. On en a huit. Quand même pas juste une, hein? Sixième raison. Qu'est-ce qu'il dit au verset 33? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et qu'est-ce qui vient en conséquence à ça? Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et là, il ne faut pas faire le mauvais calcul, comme j'ai déjà vu. Là. On ne travaillera pas, on ne fera pas rien, parce que le Seigneur va pourvoir. Je vais juste évangéliser, le Seigneur va pourvoir. Non, notre Seigneur nous demande de travailler, c'est biblique et tout ça, ces choses-là. OK? Ce qu'il nous demande, c'est de ne pas s'inquiéter. C'est de ne pas mettre nos priorités dans ces choses-là, de mettre notre confiance. Je suis en train de lire dans Isaïe. Qu'est-ce que Isaïe reproche au peuple? Mettre leur confiance dans d'autres peuples, les Assyriens, pour les délivrer, au lieu de le mettre en Dieu. C'est ça le problème. Donc, même chose ici. C'est Dieu. Il faut reconnaître que c'est Dieu qui pourvoit. C'est Dieu qui est au contrôle. Ça ne veut pas dire de rien faire. Mais il faut reconnaître ça quand même. Il faut le mettre en premier. Le royaume, c'est la justice de Dieu. Et tout ça va venir. Point 7. Qu'est-ce qu'il dit? Le lendemain aura soin de lui-même. Ne vous inquiétez pas donc du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Et ça, on en a parlé souvent, je le répète encore, très souvent, nos inquiétudes viennent de notre tête. Qu'est-ce qui va se passer demain? Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a de quoi sur la table. Mais qu'est-ce qui va se passer demain si j'ai plus de job? Qu'est-ce qui va se passer le mois prochain, mais que mon compte arrive? Hein? On se projette dans l'avenir. On s'inquiète de l'avenir. Mais qu'est-ce qu'il dit? Le lendemain, il va s'occuper de lui-même. C'est quoi la prière que Jésus donne pour le Notre Père? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, ou notre pain de ce jour, selon la traduction. La manne dans le désert, il en prenait pour la journée même, pas pour le lendemain. Qu'est-ce qui arrivait à ceux qui en prenaient pour le lendemain? Elle était infecte. Ça ne me tente pas d'avoir des vers dans votre nourriture et tout ça. Hein? La nourriture du jour, à part le samedi, il y en avait le double. Donc, à chaque jour suffit sa peine, point 8. Pourquoi le lendemain il va avoir ça de lui-même? Parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Vous en avez assez de votre journée. Ça ne veut pas dire de ne pas planifier, hein? Attention à ça. Mais de ne pas se préoccuper. Il y a une différence entre les deux. À chaque jour suffit sa peine. Vous en avez assez d'aujourd'hui sans vous préoccuper de demain. Pensez à l'histoire de Marthe, hein? L'esprit placé à 10 places différentes parce qu'on pense au lendemain, qu'est-ce qui va se passer demain? À chaque jour suffit sa peine. Bien, devinez quoi? C'est un principe biblique. Un jour à la fois, hein? C'est un principe biblique. C'est ce que le Seigneur nous demande de faire lui-même, de ne pas se préoccuper du lendemain. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire, pas appeler notre belle-mère et dire, je vais aller le voir la semaine prochaine. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Pas se préoccuper, être inquiet. Il y a une différence entre les deux. Vous savez faire la différence, je pense. Hein? Donc, comme je dis, nos soucis sont bien plus souvent ce qui pourrait, et je dis bien pourrait, arriver demain que pour ce qui arrive aujourd'hui. On se fait des scénarios. Puis c'est bizarre, hein? La plupart du temps, quand on se fait des scénarios, la plupart du temps, les gens que je connais qui se font des scénarios, c'est des scénarios catastrophes. C'est jamais le positif, le scénario. Je ne sais pas s'ils veulent absolument penser au négatif pour être sûr que finalement, c'est pas si pire que ça. Mais c'est toujours le scénario catastrophe qu'ils pensent, hein? D'ailleurs, le mot Merimnao, il y a un mot qui dérive de ça, qui apparaît juste une fois dans le Nouveau Testament, pro-Merimnao, pro, hein, avant. Et il signifie lui aussi être inquiet ou anxieux d'avance. On est anxieux avant que ça arrive. Il est utilisé juste une fois ce mot-là, dans Luc 12, 11. Jésus dit, quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, nous, de ce que vous direz. Stressez pas avec ça. Comment ça va se passer? On parle d'un contexte bien spécifique ici, d'être devant les autorités, mais je pense que ça peut s'appliquer plus large que ça aussi. Hein? De ne pas s'inquiéter de ce qu'on va dire, de ce qu'on va faire. Ça ne veut pas dire de ne pas se préparer, hein? En lisant la parole, etc., etc., en priant, etc., pour le terrain, on va se préparer. Mais ne pas s'inquiéter. On peut se préparer sans s'inquiéter, ça se fait? Oui? Oui. Si je reviens à un autre mot, Merimnao, il est utilisé dans un très beau verset que vous connaissez probablement. Ne vous inquiétez, au Merimnao, de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Qu'est-ce que tu disais tantôt? Dieu les connaît. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas ça quand on vient le voir pour lui en parler. Savez-vous quoi? Quand on prie, ça fait bien plus de bien à nous autres qu'à Dieu. On n'apprend rien de nouveau à Dieu quand on prie. Mais ça nous libère nous autres, ça nous libère l'esprit, ça nous libère de nos fardeaux, ça nous met à disposition devant Dieu, à disposition de recevoir, à disposition de partager, en communication avec lui, puis ça, c'est ce que lui veut, la communication. La prière, c'est pas pour Dieu, c'est pour nous autres aussi. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Des fois, c'est quand ça va mal qu'on supplie. Il ne faut pas surprendre que ça arrive, des journées que ça va mal, Dieu a besoin qu'on aille vers lui et qu'on le supplie. Mais avec des actions de grâce aussi. Et l'action de grâce peut être avant que ça se produise en passant. pas obligé d'attendre d'avoir les réponses. Des fois, on peut avoir des actions de grâce. On peut avoir la conviction. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle avec notre situation. On peut tout de suite le louer. Pas besoin de savoir le résultat final pour le louer. On sait que le résultat final va être dans ses plans pareil. Alors, on peut le louer tout de suite. Passage qu'on citait tantôt. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Le mélo de tantôt. Hein? Dieu connaît nos situations. Il sait ce dont nous avons besoin. Il connaît et il sait. Il ne nous demande pas de les ignorer. Ça, c'est important. Pas ignorer, faire semblant que ça n'existe pas. Hein? J'ai vu des gens des fois, « Ah non, je n'ai pas ce problème-là. Ah non, ça arrive. » Non, non. Il ne nous demande pas de les ignorer, faire semblant que ça n'existe pas. Mais il les connaît déjà. Ce qu'il demande, c'est quoi? De les apporter à ses pieds, de lui donner. Hein? Et il va s'en occuper. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, ça dit. C'est pas merveilleux. Prends soin de nous. Le dernier terme, il est traduit par souci. Et c'est un mot de la même famille, hein? Mérimna, tout à l'heure. Mérimna, vous voyez que c'est très semblable, c'est un mot de la même famille. C'est traduit par souci. Mérimnao, ça dérive de ce mot-là. C'est un mot de la même famille en d'autres termes. Et celle-là, pourquoi j'en parle? Parce que nos soucis peuvent nous causer des problèmes aussi. Ce n'est pas le stress, mais le souci que ça l'engendre parfois. C'est ce mot-là qui est utilisé dans Matthieu, Matthieu 13, 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, on parle de la parabole du semeur, hein? C'est celui qui entend la parole, mais à qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Et dans le contexte qu'on parle ici, c'est vraiment l'Évangile dans nos vies, hein? Mais on peut aller plus loin que ça un petit peu. Est-ce que c'est possible que nos soucis du siècle, de ce qui est du terre à terre, nous empêchent de porter du fruit pour Dieu dans notre vie? Danger. Danger. Attention à ça. C'est tout à fait normal. On parlait de normal tout à l'heure. Si on est préoccupé par un paquet de choses, c'est difficile de travailler pour Dieu, d'avoir l'esprit libre pour Dieu, de voir les situations des fois dans lesquelles Dieu peut nous mettre pour parler de lui à quelqu'un, quoi que ce soit. On est préoccupé dans notre bulle. Donc, on peut ne pas porter de fruits de façon plus ou moins prolongée, dépendamment de l'attaque que cette situation-là dure. Parce que on est préoccupé par les soucis de ce monde. Oui, il y a deux sens. C'est sûr que le souci, souvent, dans ce contexte ici, on parle des choses, la richesse et tout ça. Hein? Notre tête est préoccupée par avoir plus, avoir plus, avoir plus. Mais ça peut être aussi des soucis de la vie quotidienne. Un autre endroit où il y a ce mot-là, Luc 21, 34. Prenez garde à vous-même. Avertissement. Prenez garde à vous-même. De crainte que vos cœurs ne s'appesantissent. Pour ça, je ne pense pas qu'il parle des non-chrétiens ici. Hein? De peur, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Et que ce jour, c'est quoi, le jour de son retour, ne vienne sur vous à l'improviste. On pourrait même, en tant que chrétien, se laisser distraire, déranger, arrêter par les soucis de la vie. Et le Seigneur nous met en garde contre ça. Et la solution est quoi? On l'a vu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, Mérimna, car lui-même prend soin, Mélo, de vous. On n'a pas besoin de porter ce qu'il a déjà porté. Hein, il l'a déjà porté. Pourquoi on veut le porter à nous autres aussi? Il faut juste y amener. Plus facile à dire qu'à faire. Oui, je sais. Je suis un être humain aussi. Hein? Mais ça ne change pas la vérité. C'est ce qu'il faut faire quand même. Et je vais terminer avec un verset que ma femme a utilisé. Au moins, je l'ai pris un. On l'a dit au début, hein? Ça vient souvent dans notre tête. La situation se produit. C'est correct, c'est une situation. C'est notre façon de réagir à la situation. Donc, comment réagir de la bonne façon? On l'a vu toutes sortes de façons, mais grosso modo, c'est changer de lunettes, changer la cassette. Alors, Cela a changé avec quoi? Je pense toujours à la parabole de Jésus, hein, quand il parle des esprits, l'esprit qui quitte. Et là, il se promène un peu partout et il revient à la maison parce qu'il n'a pas trouvé d'autre endroit. Et il la trouve balayée et ornée. Qu'est-ce qu'il fait? Il va en chercher cet autre. Et la situation est pire qu'avant. Et le problème qu'on voit dans ça, c'est quoi? C'est que la maison est vide. Remplissons-la avec d'autres choses. Hein? Donc, avec quoi qu'on remplit? Philippiens 4:8. Au reste, frères et sœurs, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, que tout ce qui est vertueux et que tout ce qui est digne de louange soit l'objet de vos pensées. Alors, imaginez-vous tout ça? Il ne reste pas de place à grand-chose d'autre. La tête va être assez déjà préoccupée par tout ça. Hein? On n'a pas de place à se préoccuper d'autres choses négatives. Ce qui est vrai, ce qui est honorable, qui honore Dieu, qui honore les autres, tout ce qui est juste, la justice, la vérité, hein? Ce qui est pur, ce qui est aimable, pas de mauvais coup, pas de ce qu'on peut faire à l'autre pour se venger, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange. En d'autres termes, comme j'ai dit, on remplace le négatif par le positif. Avant une petite lecture, mais je vais arrêter là. Il y a déjà... L'heure est assez avancée. J'ai l'heure sur ma tablette au moins, heureusement. Il y en a qui se demandaient, « Il vaut-tu l'heure? » Non, OK. Donc, je vais arrêter là. Je vais demander à l'équipe de louange de venir pour le dernier chant.